chose, des premières choses que je vais être content de me débarrasser. Bien, bonjour frères et sœurs, bonjour ceux sur YouTube. Soyez la bienvenue ce dimanche matin, dernier dimanche d'octobre. Ce matin, on sent un peu l'hiver, hein? On sent un peu le froid. Et c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est là. Et vivons-le.
Bien, j'aimerais qu'on regarde dans 1 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23, la fin du chapitre 3, qui est la conclusion au sujet de l'unité de l'Église. Verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, et il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. C'est un texte rempli de promesses. Et peu importe la situation de notre vie, peu importe les circonstances que nous allons avoir à vivre dans notre vie de chrétien est une vie de privilège. Nous sommes privilégiés. Et ce privilège, Dieu en a fait un temple saint. Et à ce temple est attaché toutes sortes de bénédictions, et c'est ce que nous allons voir ce matin, des bénédictions attachées à ce privilège d'être chrétien. On doit dire d'abord que Paul, dans son avertissement qu'il a formulé du verset 9 jusqu'au verset 15, du chapitre 3, il y a une perte de récompense à bâtir de la mauvaise manière. C'est ce que l'on a vu la semaine passée. C'est-à-dire bâtir pour son intérêt personnel, bâtir au lieu que ce soit bâtir pour la gloire de Dieu, bâtir pour notre cœur à nous. Et notre cœur qui est à ce point tortueux, nous pouvons même avoir cette attitude de mal bâtir sans vraiment s'en rendre compte. Paul dit, excusez, c'est pas Paul, la parole dit, notre cœur est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et la manière la plus sécuritaire de rester dans la volonté de Dieu par nos actions, nos paroles ou nos pensées, c'est d'être intentionnel dans notre soumission à Dieu. C'est-à-dire que je serai prêt à m'engager à tous les jours, quotidiennement, à formuler ma dépendance envers Dieu. Humblement admettre que notre cœur n'est pas sur la même longueur d'onde que le cœur de Dieu. Et que j'ai besoin des lumières de Dieu pour savoir où est l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et comment je peux me tenir loin du bois, du foin et du chaume. Se soumettre intentionnellement, c'est-à-dire avec engagement au quotidien. Et déjà cela, ce sont des pierres précieuses. Mais voilà, le texte ce matin nous dit qu'il y a pire que mal bâtir. C'est de détruire. Et l'avertissement de Paul ici ne s'adresse pas à ses enfants parce qu'il parle de destruction. Dieu n'a jamais dit qu'il était pour détruire ses enfants. Malgré que ses enfants peuvent avoir certaines attitudes qui ressemblent à cela. Mais il faut comprendre qu'il existe dans les églises et même en dehors de l'église des gens qui n'appartiennent pas à Dieu, ça existe dans les églises, et qui chercheraient à détruire. Et le terme détruire veut dire gâter, abîmer, faire tort, nuire, empêcher d'eux. Paul reprend les Corinthiens dans cette interrogation. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Voilà une chose que les Corinthiens auraient dû savoir. Et cette méconnaissance-là a fait en sorte qu'ils ont négligé la puissance de leur position en Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et ça implique énormément de choses. On a vu une gradation dans les propos de Paul qui parle de l'édifice, qui mentionne au verset 12, 13, l'édifice de Dieu. Et tout d'un coup, ça change en temple saint. Deux mots qui définissent le mot « temple ». Le premier, c'est « hiéron » et le deuxième, c'est « naos ».« Hiéron », c'est le temple de Jérusalem. Ce n'est pas le temple de Jérusalem. J'ai essayé de sortir une image la plus représentative possible. C'est le temple d'Ézéchiel. Ce n'est pas le temple de Jérusalem. Mais ça représente un temple. Hiéron, c'était l'ensemble du temple, tous les bâtiments et toutes les bâtisses que tout le monde pouvait voir, qui a pris 46 ans à bâtir. C'était magnifique. Et le deuxième, Naos, s'applique au sanctuaire, au lieu très saint, celui qui est entouré par l'ovale vert. C'était ce petit endroit qui est le sanctuaire intérieur. Un lieu très saint. Le mot utilisé dans nos versets, c'est « naos ». C'est une portion très simple du temple. Dans l'Ancien Testament, cette portion était particulière. Personne ne pouvait y entrer, sauf le souverain sacrificateur, une fois dans l'année, la journée des expiations. C'est un lieu où resplendissait la gloire de Dieu. C'est un lieu qui s'appelait le Shekinah, la gloire de Dieu. De là, Dieu se manifestait à son peuple. De là, Dieu faisait rayonner son activité. Dieu donnait ce qu'il voulait à travers ce lieu. L'Esprit, à travers les propos de Paul, dit aux Corinthiens que c'est exactement ce qu'ils sont. Ils sont des naos. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes, des naos, des sanctuaires. Nous sommes des gens qui sont censés resplendir la gloire de Dieu. Nous sommes des gens qui sont censés faire rayonner l'activité de Dieu. Plus nous comprendrons avec force cette vérité, plus il aura le pouvoir de transformer nos vies. C'est de ce temple que Christ a parlé dans Jean chapitre 2 lorsqu'il dit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ». Il parlait du temple de son corps, la demeure de la divinité. Nous sommes ce naos. Juste cet argument-là, juste ça, là, ça justifie l'autodiscipline de notre vie chrétienne. Et ça justifie aussi la discipline à l'intérieur de l'Église. Ce seul argument-là me fait penser quelque part que je dois être discipliné pour Dieu. Et que je dois être repris même si je suis tombé à côté, parce que mon cœur, on sait ce qu'il est. Mais la discipline va être touchée plus loin dans le livre de Corinthiens. On a vu une gradation de l'édifice au temple, mais il y a aussi une gradation dans les conséquences aux actions commises. De la perte de récompense sans la perte du salut, il y a la destruction. Pourquoi? une gradation comme ça. Parce que détruire une partie du temple saint de Dieu revient à toucher à l'attribut de Dieu la plus significative, sa sainteté. Ésaïe a eu une vision des anges présentant Dieu et les paroles de ces anges qui dit qu'il est trois fois saint. Saint, l'Éternel des armées. Jamais dans la parole, il va mentionner que Dieu est bon, ou juste, ou quelque autre attribut. Mais trois fois, il dit qu'il est saint. Enlever la sainteté de Dieu au milieu de l'ACCM. Faites juste un test. Enlever la sainteté de Dieu au milieu de l'Assemblée et on est obligé de changer de nom. On ne s'appellera plus la CCM, on va s'appeler la CBCM, le club de bingo du Cap de la Madeleine, ou le club de bridge du Cap de la Madeleine, ou le club de baseball poche du Cap de la Madeleine. Mais la sainteté de Dieu est présente. Et voilà pourquoi nous sommes une assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Il ne faut pas toucher à la sainteté de Dieu. Et Dieu nous le dit ici. On a plusieurs raisons de se rassembler. Vous avez une raison ici, vous voulez voir les gens autour de vous. Et on manque, c'est ainsi, de communion fraternelle. On est d'accord là-dessus. On aimerait que l'assemblée soit pleine comme avant. Mais la raison principale pourquoi on se réunit, c'est pour faire resplendir la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu. Et cette raison-là, elle est majeure. Elle est plus importante que d'avoir la communion fraternelle. La communion fraternelle, ça nous fait du bien à nous. Et de refléter la gloire de Dieu, c'est vraiment à Dieu que ça bénéficie. Ce que Dieu déclare saint participe à inviolabilité de Dieu lui-même. C'est-à-dire que ce que Dieu déclare saint a la même valeur que son nom. Et Ézéchiel 39, 25, il dit, « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. » On pourrait traduire le mot « jaloux » par « zèle ». Et en anglais, ça fait un beau jeu de mots parce qu'en anglais, c'est « jealous » pour « jaloux » et « zealous » pour « zèle ». Jésus s'est exprimé d'un zèle jaloux lorsqu'il a renversé les tables des vendeurs dans le temple. Il tenait à ce que la sainteté de Dieu soit exprimée de cette manière-là. Dieu exprime ce même zèle, cette même jalousie lorsque son temple saint est affecté ou infecté. Il s'engage dans une seule mesure, la destruction de celui qui détruit. Il tient énormément à sa sainteté. Mais pourquoi que l'avertissement est donné à toute l'Église? Afin qu'elle soit alerte et éveillée à ce qui la menace. Paul dirait dans un autre texte, « Jugez vous-même. » Les chrétiens doivent se sentir concernés par leur environnement. Surtout, c'est ainsi, depuis qu'on regarde à gauche et à droite sur Internet, toutes sortes de prédications de toutes sortes de monde. Il faut faire attention parce que des petits poisons qui ne paraissent presque pas peuvent nous envahir. Il faut faire attention, la sainteté de Dieu ne doit pas être touchée. Paul est préoccupé par ce cancer qui gruge l'Église de Corinthe, la division, qui peut infecter toute Église qui ne se préoccupe pas de ce péché. On n'est pas à l'abri, nous, en 2020, de cela. Dans les versets 18 à 20, on retrouve deux expressions, le sage de ce siècle et la sagesse du monde. Des gens qui s'écartent de la simplicité de l'Évangile pour s'attacher à la science, aux philosophies et aux grands orateurs. Ce que l'on voit dans ces versets, c'est que la sagesse du monde et la folie de Dieu sont incompatibles. Tu ne peux pas mêler les deux. Ils ne peuvent pas être présents ensemble dans la manière de négocier notre vie. Et je parle de négocier notre vie ici, la manière que je mets mes pensées du matin jusqu'au soir, la manière que je fais mes actions du matin jusqu'au soir. Je ne peux aller vers la sagesse du monde et en même temps avoir la folie de Dieu dans mon cœur. Voilà l'expression de, qu'ils deviennent fous. Qu'ils deviennent fous pour Dieu. Et si quelqu'un vous traite de fou, vous direz « Yes, je suis fou pour Dieu. Oui. » Un chrétien ne peut avoir une vie de sagesse humaine et de folie divine en même temps. C'est incompatible. L'idée se retrouve dans la bouche de Jésus lorsqu'il disait « On ne peut avoir deux maîtres, on ne peut servir deux maîtres. Soit il va aimer un et haïr l'autre. » C'est dans Matthieu, chapitre 6, ou dans Jean, au chapitre 2, lorsque il va dire « N'aimez point l'épître de Jean, excusez, l'épître de Jean, au chapitre 2, il va dire « N'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe et sa convoitise aussi. » Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Dieu fait cette séparation-là. La relation avec Dieu n'est pas une relation de compromis. Elle est totale ou totalement absente. Il ne faut pas oublier que Dieu parle à des Corinthiens, aux chrétiens à Corinthe, et certaines de ces personnes pensent vivre pour Dieu en étant sage selon ce siècle, ou en ayant la sagesse du monde. Mais ils s'abusent eux-mêmes lorsqu'ils se pensent sages. Et c'est là une autre manifestation de l'orgueil. Lorsque je suis suffisamment sage, le chemin de celui qui s'abuse mène inexorablement à la division. Un jour ou l'autre, ça va vers la division. Et il ne faut jamais se penser à l'abri de cela, ces divisions-là. Paul a mis à jour dans les textes qu'on a vus une division dans l'Église. Mais cette division-là a commencé dans les cœurs. Elle a commencé premièrement, et c'est la toute première division. Et Le traitement face à cette division-là, à ce que l'Église de Corinthe vivait, premièrement, c'était face au cancer de la division, un regard sur notre propre cœur. Soit que vous bâtissiez mal ou que des personnes cherchent à détruire l'Église. Mes pensées, est-ce que mes pensées divisent ou si mes pensées rassemblent? Qu'est-ce qui m'anime, la sagesse du monde ou la vérité de Dieu? Est-ce que je retrouve dans la parole de Dieu ce que je pense présentement? Le monde ira jusqu'à la fin sans comprendre leur folie. Et Dieu a comme projet de leur montrer leur erreur. Ils vont être pris dans leur ruse, qu'il dit au verset 19. Il prend les sages dans leur ruse. Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Mais je disais dans des commentaires que les mots utilisés sont plus pesants que ça. Il va dire, ils seront empoignés dans leur capacité à faire mal. à faire le mal. Et il leur démontrera que leurs pensées sont vides de sens. L'homme est essentiellement un être spirituel. Certains biologistes vont dire que nous sommes des animaux, mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres spirituels avec un corps. Et comme être spirituel, le développement de cet être spirituel ne se fait pas par la connaissance du monde et les choses du monde, mais elle se fait par la connaissance et l'application de la vérité dans ta vie. Regarde sous notre propre cœur. Première médication. Deuxième médication, un regard sur ce qui nous entoure, sur ceux qui nous entourent. Ainsi donc, voilà que personne ne doit mettre sa gloire dans l'homme. Et c'est bien ce que les gens de Corinthe faisaient. Ils mettaient la gloire dans Paul, dans Apollos, dans Céphas. Et qui d'autre? Et il amène l'argument tout à fait contraire. Les serviteurs qui appartiennent à Dieu vous appartiennent aussi, nous appartiennent aussi. Nous ne sommes pas d'eux. C'est eux qui sont à nous. Tous les serviteurs de Dieu sont à nous. Ceux qui servent Dieu sont à votre disposition. Et tous ceux qui veulent servir sont à la disposition des besoins des gens autour de l'Assemblée. Ceux qui servent sont à l'Église et non le contraire. Dieu ne voit jamais des hommes et des femmes prêts à être servis sans jamais servir eux-mêmes. Vous voulez être servi? Vous devez servir vous-même. Nous nous appartenons les uns les autres. Ce que mon frère, ce que ma sœur fait m'influence et j'ai le droit de m'approcher et de dire: corrige ta situation et je veux t'aider à le faire. Ça enlève toute hiérarchie dans l'Église. Il n'y a pas des gens plus hauts que les autres. Il n'y a pas des anciens ou des pasteurs plus hauts que les autres. Ensuite, des diacres. Ensuite, non. Nous sommes tous égaux avec des rôles différents. Nous avons tous des dons différents pour l'édification de l'Église. Mais nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Si je rencontre quelqu'un parce qu'il vit des problèmes, ces problèmes ne sont pas son identité. Il est un enfant de Dieu. Sa première identité. Si Dieu m'a placé sur le chemin de quelqu'un pour lui venir en aide, ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est que je suis un enfant de Dieu. Si Dieu a placé comme anciens des hommes pour œuvrer au milieu de vous, ce n'est pas leur identité. Leur identité première, ce sont des enfants de Dieu qui œuvrent au milieu de vous, qui sont égaux à vous. J'espère qu'au Cap de la Madeleine, vous ressentez ça comme ça. J'espère que vous ne voyez pas les anciens comme des boss ou des maîtres. Ce sont des enfants de Dieu comme tous et chacun au milieu de vous. Nous nous appartenons tous les uns les autres. Nous ne sommes pas supérieurs. La seule chose qui me différencie de vous, c'est que je suis juste sur une estrade. C'est tout. Ça ne veut rien dire. La troisième médication pour éliminer ce cancer, c'est un regard sur ce qui nous appartient. L'énumération des choses qui nous appartiennent, le monde, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir. M. Godet nous dit de cette liste-là que c'est l'inventaire des propriétés de l'enfant de Dieu. Tout est à nous. Tout peut être utilisé pour la gloire de Dieu. Tout est à notre service. Le monde nous appartient. Même si le diable domine présentement, Le destin du monde est que nous régnerons sur lui, avec Christ. Pourquoi? Parce que dans 2 Timothée, il est écrit que Christ a vaincu le monde. Dieu veut que nous sachions que nous possédons aussi la vie et la mort. Autrement dit, que ces deux grands aspects de la vie nous servent. Nous avons la liberté dans notre vie parce que la vérité nous a affranchis, nous a libérés. Une vie en Christ est une toute autre vie. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons la capacité de servir, de se servir de la vie pour faire ce pourquoi nous avons été créés. Et pourquoi nous avons été créés, d'après vous? Pour glorifier Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais nous sommes capables de le faire, et la vie nous offre cette possibilité, la vie en Christ. Nous possédons aussi la mort. Et chose inconcevable à l'esprit humain, on possède la mort. Nous pouvons être servis par la mort. Sans Christ, je pourrais avoir raison d'être effrayé par la mort. Je serais terriblement effrayé par la mort sans Christ. Mais Christ a vaincu la mort aussi. Il se pourrait qu'on meure avant que Christ revienne. C'est possible. J'aimerais ça qu'il revienne avant que je meure, mais bon, c'est pas moi qui mène, c'est lui. Mais je ne passerai pas par la deuxième mort. Et je vivrai pour l'éternité avec Christ. Si nous avons à passer par la mort, nous passerons en maître et non en esclave. Et le meilleur exemple que je peux vous dire, c'est j'ai visité Michel Joannet cette semaine. On connaît tous que Michel, le médecin lui a donné un verdict de mort imminente. Il n'y a rien à faire. Et il a accueilli ça sereinement, à un point tel que son médecin dit, « Ça fait 30 ans que j'opère, puis je n'ai jamais vu ça. » Sa compagne de chambre dit, « J'ai jamais vu être aussi serein face en face de la mort. » Quelqu'un qui passait dans le corridor l'a entendu parler, puis il dit, « Ah, j'ai jamais entendu parler comme ça. » Il est maître. La mort le sert. Imaginez quel privilège immense. Le temps présent nous appartient parce qu'on peut rendre littéralement dans le verset, on peut prendre littéralement le verset 28 de Romains 8, verset très connu, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Je peux accepter, peut-être sans comprendre parfois, mais je peux accepter que toute situation de ma vie soit sous la direction de Dieu. Que la seule chose que Dieu désire pour son enfant, c'est son bien. Il se peut que je sois dans les problèmes par-dessus la tête, mais je sais que Dieu fait ça pour mon bien. Dieu permet ça pour mon bien. Finalement, les choses à venir. Et les choses à venir, j'ai pas de boule de cristal pour dire l'avenir. Mais par contre, j'ai la parole de Dieu qui nous dit dans Romains 8 que dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La parole de Dieu est encore beaucoup plus efficace que ce que moi je peux en dire. L'avenir, on l'a donné à Dieu, et Dieu s'en occupe. Le dernier traitement, et c'est, je crois, celui qui fait foi de tout, à qui nous appartenons. On a vu comment riches nous sommes, quelle richesse que même aucun argent dans le monde pourrait nous accorder, comment riches nous sommes. Notre richesse est présente, notre richesse est future, mais ce qui nous donne un sens à toute cette richesse, c'est que nous appartenons à Christ. Nous sommes de ses serviteurs. Mais c'est lui qui nous sert. Nous sommes ses serviteurs et c'est lui qui nous sert. incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'il est venu sur la terre, non pour être servi, mais pour servir. Et il nous sert encore. La parole me dit que je puis tout par celui qui m'a fortifié. Et c'est vrai. Je puis tout par celui qui m'a fortifié si je donne le respect à qui j'appartiens. C'est parce que je lui appartiens que je possède toutes ces choses. Dieu me dit à travers ces versets que je peux utiliser ces dons pour la gloire de Dieu et pour mon bonheur. Et ces deux choses-là sont étroitement liées. La gloire de Dieu et mon bonheur, c'est lié ensemble. Il y a une joie à servir et à être servi, à servir et à être servi par le peuple de Dieu. J'ai la joie d'avoir une vie où mes besoins sont comblés. Mes besoins sont comblés, pas mes désirs, mes besoins. Vous méditerez sur le psaume 113, vous verrez la différence entre désir et besoin. J'ai aussi une sérénité à attendre la mort. Je n'ai pas peur de la mort, car je sais à qui je vais et où est-ce que je vais pour retrouver, lorsque je vais passer cette étape-là de ma vie. Et Dieu m'a donné suffisamment d'informations pour que je ne m'inquiète pas de mon futur. À chaque fois que je vais dans un salon funéraire ou que je suis au courant d'une mort imminente, je remercie le Seigneur. Je n'ai plus ce poids sur moi. Je n'ai pas ce poids sur moi. Je n'ai pas à me préoccuper de ça. J'en suis délivré. Et je peux faire miennes les paroles de Paul lorsqu'il dit « La mort m'est un gain ». J'ai aussi une joie à vivre le moment présent, car j'apprends que Christ, que le moment le plus important de ma vie, c'est celui que je vis maintenant. Et j'ai la joie de mon futur parce que je lui ai donné, parce que le futur appartient à Dieu et il en fait ce qu'il veut. Et je sais qu'il fait la meilleure chose pour moi. La dernière constatation de Paul, si elle est prise au sérieux, devrait nous éloigner définitivement de la division. Si on tient compte au sérieux de ça, nous avons tous le même Sauveur, le même ami, le même frère. Nous avons tous le même Père, et c'est celui de Christ. Imaginez, nous sommes tous réunis autour du même Père. Pourquoi les divisions? C'est l'exemple de la poule qui rassemble ses poussins. En conclusion, on a vu dans tous ces textes l'importance que Dieu porte sur le sujet de l'unité de l'Église. Dans les textes que nous avons vus, lisez Jean 17, lisez le psaume 133 et beaucoup d'autres. L'unité de l'Église est importante pour Dieu et plus importante que mes choses personnelles. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse dans notre unité et qu'il développe encore plus cette unité pour la gloire de Dieu. Amen.